On verra après si vous applaudissez toujours. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à, c'est très à la mode hein, d'ailleurs en ce moment avec le scrapbooking, hein, à découper des petits trucs de journaux, découper des petits articles là qu'on aime bien, les coller, les arranger quelque part. Je sais que ma belle-mère, ouais, Véronique est pas là, ouais. Ma belle-mère fait ça beaucoup. Elle découpe des articles de journaux qui lui ont plu ou qu'elle pense qu'on va aimer. Et puis, voire même, des fois, elle nous les envoie par la poste. Donc, on reçoit de temps en temps des articles de journaux suisses qu'on n'a pas en France. Et puis, voilà, avec des articles qu'elle voulait absolument nous partager. Et je me dis que des fois, on peut faire un peu la même chose avec la parole de Dieu. Et il y a des versets comme ça qu'on a envie de garder. Hein, si je dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. On le garde? Oui? Il n'y a que moi qui le garde? Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Waouh! On garde? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta propre intelligence. Il aplanira tes sentiers. Il les rendra droits, il aplanira tes sentiers. On garde? Ah, il y a tellement de belles choses qu'on garde. Et ce passage où l'Éternel il dit au peuple d'Israël, prenez possession de cette ville et vouez à l'interdit tout ce qui s'y trouve. On garde? Hommes, femmes, enfants, bétail, vouez tout ça à l'interdit. On garde? On doit garder. Repentez-vous, race de vipères. Ô Jésus, on garde? Ouais, on doit garder. Il y a des passages comme ça qu'on voudrait enlever la parole de Dieu. Et pourtant, ils y sont. Et ils sont absolument pas incohérents avec notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu bon, qui a un plan absolument parfait pour toute la création et pour nos vies, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Il n'y a rien de tout ça qui est en contradiction avec cette vérité absolue. Je voudrais juste poser ce fondement-là avant d'aborder le reste de ce message. Dieu est un Dieu bon, immensément bon. Dieu est un Dieu d'amour. C'est son essence même. C'est ce pourquoi il a créé. C'est ce pourquoi il a un plan de salut pour sa création, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et pourtant, il y a des passages qui viennent heurter ces choses-là. Et il y a des passages qu'on n'a pas envie de lire et qui nous dérange. Il y a des moments où on voudrait bâillonner Jésus. Pourquoi t'as dit ça? On voudrait mettre un bâillon devant sa bouche. Et c'est un de ces passages dont je voudrais qu'on parle ce matin. Et ce passage, il est dans Matthieu 10, et je vais lire du verset 34 jusqu'au verset 39. Donc Matthieu 10, versets 34 à 39 pour ceux qui suivent avec leur Bible. Je vous encourage d'ailleurs hein, à avoir vos Bibles, qu'elles soient électroniques ou papier. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ok? Je sais pas vous, mais je pense que j'ai manqué le chapitre où Jésus disait qu'en fait la paix, ça valait rien, hein, apparemment. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter l'épée. Et Jésus, en fait, il nous choque là. Il nous choque. Et il fait souvent ça. On va souvent trouver Jésus qui parle de façon radicale, de façon choquante, de façon unilatérale, parce qu'il s'attend à ce que ses auditeurs, ceux qui étaient là sur place, et puis ceux comme nous qui liront ces paroles-là plus tard, on soit surpris qu'on soit réveillé par ce genre de paroles et qu'on prenne Jésus au sérieux. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, ces passages de la parole de Dieu, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les enlève ? On n'est pas censé retirer un iota de cette parole. Et ça veut dire que si c'est dans la parole de Dieu, alors il faut qu'on y fasse attention. Alors il faut qu'on regarde qu'est-ce que ça veut dire. Alors il faut qu'on comprenne. Jésus, qu'est-ce que tu veux dire quand tu nous parles de ça ? Donc Jésus parle de manière radicale. Et souvent, on va trouver Jésus qui parle de manière radicale, de manière choquante, de manière forte. Et il s'attend à ce que nous, on mette les limites autour de ces paroles-là par rapport à ce qu'il nous dit dans le reste de l'Écriture. Et ce verset-là, il ne vient pas en contradiction avec le reste de l'Écriture, mais c'est à nous de le lire de manière large. Et ça me permet de dire aussi, attention, quand on lit un passage, à ne pas juste prendre ce passage-là et dire « Ah, ça veut dire ça !» même si c'est en incohérence avec le reste de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans son ensemble et la cohérence qu'elle veut dire dans son ensemble. Hein, on n'entend pas seulement « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée », et puis on dit « Ok, allons faire la guerre. Allons faire la guerre sainte. Lançons des croisades. » Dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Appuyé sur ce verset, on a détruit des peuples. Appuyé sur ce verset, on a sorti l'épée et on a tué des chrétiens, on a tué des juifs. Et combien d'autres encore ? Des populations qui avaient même une révélation de qui était Dieu, simplement ils n'appelaient pas Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas ça. On leur a expliqué que c'était n'importe quoi, qu'ils étaient hérétiques. Donc c'est pas juste, on entend « je suis pas venu pour apporter la paix mais l'épée » et on dit « on va faire la guerre ». On se souvient aussi que Jésus dit dans Matthieu 5, 9 « heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu ». Et ce verset-là a autant de valeur que Matthieu 10. Jésus est le même dans Matthieu 5 et dans Matthieu 10. Et on doit mettre ces deux versets ensemble. Et Jésus, il aime la paix. Il est le prince de paix et il construit un royaume de paix. Et c'est une vérité, même si ce verset semble dire des fois des choses un peu autrement. Dans Luc 2, 14, on peut voir l'ange qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée à la naissance de Christ. » Dans Luc 1, on a Jésus qui éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Jacques dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Paul dit « En effet, Jésus est notre paix, lui qui des deux groupes, les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Et puis bien sûr, on a le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Amen. Amen. La paix, les amis, mais pas l'épée. Et donc revenons à Matthieu 10, quand il dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. » Donc Jésus, je l'ai dit, hein, il s'attend à ce qu'on soit choqué, à ce qu'on soit réveillé, à ce qu'on prenne au sérieux ce qu'il dit et surtout à ce qu'on ne généralise pas son propos, ce verset-là, en le sortant de son contexte, sans tenir compte de tout ce que la Bible enseigne, notamment sur la paix. Mais Christ, en fait, il savait que son enseignement, il n'apporterait pas la paix à tous les hommes. Ce que le Père a donné à Christ reçoivent sa parole, y croient et y obéissent. Jean 17, 6. Mais les hommes détestent Christ, car sa parole leur révèle leur péché. Jean 3, 19 et 20. Par conséquent, le monde haïra ceux qui suivent Christ. Jean 15, 18. Et les gens du monde les persécuteront à cause de leur foi en Christ. Matthieu 5, versets 10 à 12. Donc c'est une réalité que l'enseignement de Jésus amène une division, amène des persécutions, amène des tribulations et ne sera pas toujours reçu dans la paix, dans les familles, dans les nations, parmi les peuples. Et c'est intéressant de voir dans ce verset-là voir ce que Jésus dit. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et lorsqu'il dit qu'il n'est pas venu sur la terre, il attire notre attention sur quelque chose d'essentiel, sur son origine dans le ciel et sur sa mission sur la terre. Et Jésus pointe dans ce passage-là sur ces deux choses. Il est venu sur la terre pour apporter quelque chose. Et Jésus, ce n'est pas un prophète ordinaire. Il est venu d'en dehors de la terre. Il est venu d'en dehors du système mondial. D'en dehors de ce que nous connaissons. Et le message qu'il apporte est un message qui vient de ce royaume-là. Et c'est un message qui coupe comme une épée. C'est un message qui tranche. Et la paix ne sera pas la marque distinctive du ministère de Jésus. Vous pensiez que la paix était la marque distinctive de ce que Jésus avait accompli sur terre? La conséquence, c'est que le ministère de Jésus, son œuvre à la croix, amène la paix. Oui, amène la paix dans nos cœurs, la paix avec le Père, la paix avec Dieu. Nous sommes réconciliés. Mais le ministère de Jésus, sa marque distinctive, n'a pas été la paix. Relisez. Relisez les évangiles. Relisez les actes et tout ce qui s'y passe. Il est question de tribulation, il est question de prison, il est question de mise à mort, de crucifixion, de flagellation. C'est dur. Et ce qu'on doit comprendre au travers de ça, hein, c'est que ceux qui élèvent aujourd'hui la paix au rang de marque distinctive, j'entends bien, marque distinctive, comme en fait pour dire que rien ne peut être fait en tant que chrétien si ce n'est pas, si ça ne crée pas la paix, d'accord ? Si ça, c'est ce qu'on poursuit avant tout, de dire on ne peut rien faire si ce n'est pas quelque chose qui va créer la paix, si on va être en paix, eh bien si on marche de cette manière-là, on va aller à l'encontre de ce texte finalement. On va s'en éloigner à un moment donné. Pourquoi ? Eh bien parce que la paix et l'unité régneront, mais pas à tout prix. La paix et l'unité régneront, mais pas à tout prix. Et c'est ce qu'on apprend de ce texte-là. Heureux ceux qui procurent la paix, oui, mais pas si c'est à l'encontre de la radicalité du message de l'Évangile. Vous me suivez tous jusque-là ? Oui ? Alors comment Jésus, il va couper comme une épée ? Hein ? Il se présente finalement comme une alternative à la paix. Il dit « je vais être une épée, je vais couper ». Eh bien ça, il l'explique. Au verset 35, il explique immédiatement ce à quoi il fait référence. Il commence par « car hein, ». Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » Verset 35 et 36. Vraiment, Jésus ? C'est ça que tu vas faire ? Tu vas monter les membres d'une famille les uns contre les autres ? C'est ça le ministère de Jésus ? 1 Timothée 5,8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Alors est-ce que Jésus est venu monter les membres d'une famille les uns contre les autres ? Et le verset 37, il explique ça. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et en d'autres termes, Jésus entre sur terre, entre dans le monde et y revendique maintenant en tant que roi d'un autre royaume chaque cœur humain. Il revendique nos cœurs. Il revendique le fait d'être le roi de nos cœurs. Il en a le droit. Il est légitime dans cette demande. Il est légitime dans cette requête d'être le roi de nos cœurs. Ce que Jésus dit ici, je suis digne d'une plus grande affection, je suis digne d'un plus grand amour, je suis digne d'une plus grande allégeance que n'importe quel membre de votre famille. On est d'accord avec ça ou ça commence à batailler ? J'aimerais l'entendre. On est d'accord avec ça ou pas ? Jésus est plus digne de notre amour est plus digne de notre allégeance que n'importe qui d'autre sur cette terre. Et donc, si tous les membres de notre famille y répondent à ça, alléluia, on est en paix. Mais s'ils ne le font pas, s'il y a de la colère parce que Jésus est devenu plus important que les liens familiaux, que les affections familiales, c'est là que le message de Jésus tranche comme une épée. Quand je dois choisir entre rester en paix avec ma famille ou répondre à l'évangile. C'est d'autant plus vrai dans les familles musulmanes aujourd'hui, dans le monde musulman. On aimait tellement confortablement assis dans cette société qu'on réalise même pas le prix que ça peut avoir de répondre à l'évangile. Mais une famille qui suit l'islam depuis toujours, si l'un de ses membres répond à l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Il est exclu, si ce n'est pire. Mais il est exclu, il est rejeté. Et pour lui, ce verset, il a une vraie vérité. Oui, bien sûr, le message de l'évangile tranche comme une épée dans les relations familiales. Et la question de la priorité de ce à quoi je réponds, là, prend du sens. Est-ce que je choisis la paix comme une marque distinctive de dire « Seigneur, je t'aime, je veux t'obéir et donc je veux être celui qui procure la paix. Donc je vais rester avec ma famille, je vais honorer leurs croyances et avec eux, je vais continuer de rendre le culte de cette manière-là. » Ou est-ce que je choisis que ton message est radical et que tu me demandes d'emprunter un autre chemin, même si ma famille ne me suit pas sur ce chemin-là aujourd'hui. Et donc, il y a des choix à faire. Ça tranche, ce message-là. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus notre famille. Au contraire, on est zélé pour prier pour notre famille, on est zélé pour aimer notre famille, on est zélé pour servir notre famille, on est zélé pour faire du bien, on est zélé pour procurer la paix dans cette famille. Mais pas changer de cap. Pas changer de direction. Donc cette épée, elle tranche la relation et peut-être qu'on a tous goûté plus ou moins ça dans nos familles à un moment donné ou à un autre, sauf si l'ensemble de nos familles sont à Christ, ce que j'espère, mais peut-être qu'on goûte ça les uns et les autres, peut-être qu'on le goûte encore aujourd'hui. Et je voudrais vraiment que ce message, il vous encourage. Il vous encourage à la radicalité de la réponse à l'évangile, à ne pas sortir de celui que vous avez choisi de suivre, et en même temps que dans ce chemin-là, vous vous souveniez que vous êtes celui qui procure la paix, et que vous aimiez votre famille, et que vous preniez soin de cette famille, et que vous encouragiez cette famille, et que vous soyez un témoignage d'amour auprès de ces gens-là, et non pas des juges d'hérétiques, de chiens d'infidèles ou de quoi que ce soit. Ce verset-là ne nous encourage pas à prendre l'épée, les amis. Il ne nous encourage pas à prendre l'épée. Il nous dit simplement que Jésus est une épée qui tranche. Donc ça, c'était le verset 37. On avance. Verset 38, ce Jésus, jusque-là, il nous parlait de l'amour qu'on lui devait. Okay, il parlait de l'affection première. Il dit d'abord, tu dois m'aimer davantage que les autres. Mais au verset 38, il dit maintenant, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Et donc, il fait passer la cause de la division entre les membres d'une même famille à l'affection que nous avons dans les cœurs au fait de suivre Jésus de manière concrète, au fait de marcher en tant que chrétien sur un chemin qui est différent. Et que ce n'est pas juste une histoire de l'affection de notre cœur et quelque chose de complètement intérieur et de complètement caché, c'est que la démonstration de mon amour pour Christ a des conséquences sur ma manière de marcher, sur ce que je fais dans ma vie, sur des choses qui sont visibles et avec lesquelles peut-être ma famille va être en désaccord. Et voilà pourquoi il va y avoir de la division. Parce que peut-être que dans cette famille dont je parlais tout à l'heure, je ne voudrais plus me rendre à la mosquée. Je ne voudrais plus rendre ce culte-là. Je ne condamnerai pas, mais je ne voudrais pas participer. Et donc, on aime Jésus plus que tout et on le suit de manière absolue. Et à cause de ça, Jésus devient une épée dans les relations qui ne reconnaissent pas ça. Et donc, ça veut dire que la famille, elle ne jouit pas de l'affection suprême de nos cœurs. Je parle de l'affection suprême, je parle en valeur absolue. La famille ne jouit pas de l'affection suprême, mais elle n'a pas non plus l'autorité suprême. Elle n'a pas l'autorité suprême dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous avons été engendrés par des parents aimants. Bien sûr, nous reconnaissons l'autorité parentale, mais cette autorité est soumise à celle de Christ et non l'inverse. L'autorité suprême dans nos vies est Christ et son message. Et donc le disciple, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année, le disciple, il aime Jésus au-dessus de la préciosité de la famille. Et le disciple, il suit Jésus avant de suivre l'autorité de sa mère ou de son père. Mais gloire à Dieu, ces autorités-là s'alignent bien souvent. Et dans nos familles, j'espère qu'en tant que parents, on cherche à éduquer et enseigner nos enfants dans cette même ligne de ce que Dieu veut pour eux. Qu'on leur transmet ces valeurs-là. J'espère qu'on leur enseigne à suivre Jésus avant tout, qu'on leur enseigne à aimer Christ et qu'on n'est pas en décalage par rapport à ce message. Donc voilà, c'est ce que Jésus entend quand il dit « apporter l'épée » et non la paix. Ça veut dire qu'il vient au monde en tant que beauté suprême, en tant que joie suprême, en tant que valeur suprême de l'univers, et il vient avec une autorité suprême, absolue. Et par conséquent, il revendique dans chaque famille, et là on va élargir, dans chaque entreprise, dans chaque école, dans chaque église, dans chaque parti politique, dans chaque nation, mettez des points de suspension, une allégeance supérieure, un amour supérieur. Et par l'épée de sa suprématie, Jésus, il coupe toute affection, toute allégeance à la famille, à l'entreprise ou à l'école, ou à l'église, ou au parti politique, ou à la nation, qui rivaliserait avec lui pour la place suprême dans nos cœurs. Et entendez-moi bien, Jésus n'est pas venu demander l'exclusivité. Jésus n'est pas venu nous demander un absolu de couper toutes nos relations partout pour n'avoir que lui. Et on entend souvent « que toi, Jésus ». Non, c'est pas « que toi, Seigneur », c'est « toi au-dessus de tous les autres ». C'est toi au-dessus de tout le reste. Bien sûr que Jésus est totalement suffisant. Bien sûr que là, au travers de lui, la connaissance du Père est totalement suffisante à nos vies. Et que s'il n'y avait plus rien d'autre, s'il n'y avait personne d'autre, s'il n'y avait rien dans ce monde, le fait qu'il existe est suffisant pour nous. Mais il ne nous fait pas disparaître. Il ne fait pas disparaître les autres. Cette épée-là, elle ne vient pas couper pour le plaisir. Elle vient trancher ce qui veut rivaliser en tant qu'autorité dans nos vies. Ce à quoi nous faisons allégeance. Ces relations, ces habitudes, la liturgie. J'ai cité l'Église là-dedans. Est-ce que le service de l'Église a une place plus importante dans mon cœur que Dieu lui-même? Est-ce que j'aime la louange? Est-ce qu'elle produit en moi plus que celui que je suis en train de louer? Même dans l'Église, même pour des choses qui sont apparemment complètement bibliques, il peut y avoir une guerre d'allégeance sur nos cœurs. Et souvenons-nous de laisser à Jésus cette position suprême. Je vais conclure ce message maintenant, ces paroles de Jésus. Elles sont radicales. Et entendez bien que Jésus, il parle en valeur absolue. D'accord ? Il parle sans compromis. Il ne parle pas en exclusivité. Ce n'est pas ça ou rien d'autre. C'est juste qu'il parle en valeur absolue. Qui a l'allégeance absolue sur ton cœur ? Qui est le roi absolu sur ton cœur ? À quelle autorité tu te soumets de manière absolue pour marcher dans ta vie ? Et on est d'accord que si l'autorité de nos parents, si l'autorité qu'on trouve dans les frères et dans les sœurs, elle va dans le sens de ce que Dieu veut pour nous, bien sûr, on s'y soumet aussi. Et ces paroles, elles sont pertinentes pour notre époque. Et le texte, il se concentre sur la famille. Hein. C'est dans ce passage-là, il est question de la famille. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, cette dimension de famille et cette dimension d'autorité à l'intérieur de la famille, elle était extrêmement importante. On était dans un contexte où on pouvait rarement décider de soi-même, tout seul, sans embarquer aussi notre famille dans ces choses-là. Donc il y avait un challenge là, il y avait un défi pour ceux qui entendaient Jésus. Peut-être dans nos sociétés beaucoup plus individualistes aujourd'hui, ça ne résonne pas pareil, on se dit « ouais, c'est plus facile ». Dans le contexte où Jésus a donné ça, c'était un challenge. De la même manière que le fait qu'il se présente en tant que roi, il venait directement dire à César « on demande de reconnaître un autre roi que toi ». Mais l'application de ce que Jésus a dit au-delà de la famille, c'est omniprésent. Jésus, il est venu dans le monde pour perturber. Hein, la signification du mot épée, c'est ça. Il est venu pour perturber toutes les allégeances humaines qui ne mettent pas Jésus au premier plan parce qu'il veut être aimé au-dessus de toutes les autres valeurs et être suivi au-dessus de toutes les autres autorité. Et vous pouvez donc imaginer toutes les autres applications, hein, autorité dans la nation, autorité dans la politique, j'en ai parlé, autorité dans l'église, autorité dans la maison, autorité dans les affaires, autorité dans l'éducation, peu importe, imaginez tous les domaines auxquels cette vérité peut s'appliquer. Et accepter que dans tous ces domaines-là, l'évangile, le message de l'évangile est un message qui tranche. C'est un message qui tranche. Jésus est le premier en tout, amen, et répondre à sa mission est prioritaire. Et ce matin, c'est de ça dont je voulais parler, la priorité de la mission. On a entendu, on a vécu un super week-end, une vie en mission avec Henk. On a eu des enseignements extra, on a eu un témoignage extra de la vie de Henk, comment on peut mettre Jésus en priorité, mettre Dieu en priorité dans nos vies et accepter de faire des pas de foi qui sont complètement fous parfois. Et ça nous parle de ça en fait. Au moment où on est face à des pas de foi dans nos vies, au moment où on est face à devoir prendre des décisions, quelle est l'autorité suprême qui conduit ces décisions-là? Quelle est l'autorité suprême qui conduit, qui pousse notre foi? À quoi nous voulons répondre en premier dans nos vies? Est-ce que mes oreilles, elles sont prêtes à entendre quelque chose de différent que l'environnement de paix qu'il y a autour de moi. Et est-ce que je suis prêt à ce que cette paix, elle puisse venir être dérangée si finalement Jésus est en train de parler différemment dans ma vie et que ce qui est autour de moi n'est pas prêt à entendre ça, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église, que ce soit en famille. Est-ce qu'on est prêt à ça? Et le message de ce matin pointe vers ça, la priorité de la mission dans nos vies. La priorité de la mission. Et de nous souvenir que cette mission, elle a pour but que nous soyons des pourvoyeurs de paix dans ce monde, des pourvoyeurs de paix dans nos relations les uns avec les autres, des pourvoyeurs de paix autour de nous. Nous témoignons l'amour de Christ partout où nous allons. Et comme je disais tout à l'heure, je voudrais finir par ça. On pense parfois que la marque distinctive du ministère de Jésus, c'est la paix. C'est le fruit de paix autour. Parce que Jésus est un homme de paix, parce qu'il bâtit un royaume de paix, parce qu'il est appelé le prince de la paix, et qu'on est appelé nous aussi à procurer la paix dans ce monde. Et je voudrais vraiment interpeller chacun ce matin. Peut-être qu'on a érigé la paix avec notre famille, nos amis, nos collègues, avec le monde, comme un signe distinctif de ce à quoi Dieu nous appelle à être, des hommes et des femmes de paix. Et peut-être qu'on érige la paix comme un signe distinctif de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et au travers de cette paix, on justifie finalement de ne pas vivre pleinement la mission radicale que Jésus nous confie. Peut-être qu'il y a des choses, si on regarde en face le message de l'Évangile, peut-être qu'on s'aperçoit que ce message-là vient trancher des choses dans nos vies, mais que sous couvert de la paix, on n'accepte pas que ces choses-là soient tranchées aujourd'hui. Je voudrais juste nous interpeller par rapport à ça. Obéir au commandement de Jésus, aller vers les perdus à tout prix, chasser les démons, guérir les malades, faire des disciples sur toute la terre. compter sur le fait que Dieu pourvoit partout, en tout temps. Ne pas avoir peur de lâcher et de partir jusqu'aux extrémités de la terre. Quels sont les signes distinctifs aujourd'hui que nous cherchons qui sont la paix et qui nous empêchent de répondre pleinement à ces choses-là? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de répondre pleinement à la mission? Et peut-être que on doit choisir de vivre de manière plus radicale au milieu de ce monde. Peut-être que finalement, quand on regarde en face le message de l'Évangile, il vient couper des choses dans nos vies. Et on est interpellé pour y répondre. Et on est appelé à y répondre. À vivre de manière radicale au milieu de ce monde. Et si c'est notre cas, je voudrais vraiment vous inviter à vous lever à votre place. Pas tous, mais si vous êtes interpellé par cette dimension d'avoir érigé la paix comme un signe distinctif qui vous empêche aujourd'hui de faire certains choix radicaux pour le Seigneur. Je vous invite à vous lever et qu'on puisse prier ensemble. Peut-être que on a besoin de redire à Dieu, oui, je veux vivre de manière radicale. Et te rappeler, me rappeler et témoigner et m'engager à ça, de dire, Seigneur, oui, tu as l'autorité suprême sur mon cœur. Oui, tu as l'affection suprême de mon cœur et je veux te le retémoigner aujourd'hui. Si c'est votre cas, je vous invite aussi à vous lever comme un signe d'engagement de la radicalité qui donne la priorité à la mission de Jésus. Et je voudrais juste dire que, avant qu'on réponde à tout ça, que Jésus nous aide à le suivre de cette manière par son esprit. Et que quand je demande de se lever, il ne s'agit pas de se lever comme des héros vaillants et forts, mais de plier le genou comme des serviteurs humbles du Tout-Puissant. En reconnaissant qu'on est complètement dépendant à Dieu par son esprit et en choisissant de répondre pleinement à son appel de vivre pour lui et de le suivre premièrement simplement parce que l'esprit agit en nous et nous permet de le faire. Donc je ne voudrais pas nous appeler à nous lever comme des héros avec une épée à la main, mais à nous lever en étant à genoux, soit physiquement, soit dans nos cœurs, de dire Seigneur, dans cette démarche-là, je vais être dépendant à toi. Donc ceux qui veulent répondre, je vous invite à le faire maintenant et puis on va prier ensemble. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que tu es venu sur la terre, Seigneur. Que tu viens d'un autre monde, Seigneur. Que tu viens de l'extérieur de ce que nous connaissons, Seigneur. Et que tu es venu en tant que roi de ce royaume-là, réclamer l'allégeance de nos cœurs, réclamer l'amour suprême de nos cœurs, Seigneur. Et on veut répondre à ça. On veut répondre à ça, Jésus. On veut redire ce matin, Seigneur, que tu es le premier en toute chose, Seigneur. Tu n'as pas l'exclusivité de nos cœurs parce que tu ne la demandes pas. Mais tu as l'allégeance suprême, Seigneur. Celui pour lequel nos cœurs reconnaissent un amour et une autorité plus grande que toutes les autres, Seigneur. Et je prie que cette vérité ce matin, elle puisse s'inscrire plus profondément dans nos cœurs. Elle puisse s'éclairer de manière plus évidente dans nos cœurs pour que nous soyons capables de marcher en reconnaissant les endroits, Seigneur, où ton message, ce message d'absolu, vient trancher dans nos vies, Seigneur. Viens trancher sur des relations, viens trancher sur des habitudes, viens trancher sur des fonctionnements, viens trancher sur des allégeances que nous avons aujourd'hui, sur des affections que nous avons aujourd'hui et qui sont supérieures au fait de répondre au message de ton évangile, au fait de répondre à la mission que tu nous confies en tant que chrétiens, en tant qu'héritiers de ton royaume, en tant que disciples qui marchons à ta suite et qui sommes appelés à faire les œuvres du royaume sur cette terre, Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous, encore, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, de renouveler la force, Seigneur, de ceux qui se sont levés ce matin, Seigneur, par ton esprit. Merci parce que c'est par ton esprit que nous sommes capables de comprendre que tu es le premier, Seigneur. C'est par ton esprit que nous avons été rendus capables de répondre à ton évangile, Seigneur. Et c'est par ton esprit que nous pouvons marcher dans ce monde, Seigneur, en obéissant à ta parole, en obéissant à tes commandements, Seigneur, et en te mettant en premier dans nos vies, Seigneur. Alors viens encore à nouveau, Seigneur, par ton esprit, nous affermir, Seigneur, dans ces décisions que nous prenons ce matin, Seigneur. Viens encore affermir nos pieds sur le rocher de Jésus-Christ, sur ces vérités de ta parole, Seigneur, pour que nous ne soyons pas trouvés chancelants, ballottants, Seigneur, à tout vent de doctrine, mais que nous soyons pleinement établis sur le rocher de Jésus-Christ, affermis dans notre marche chrétienne. Oui, Seigneur, nous voulons te mettre en premier et nous voulons voir des fruits, Seigneur, au travers de nos mains, Seigneur, au travers de ce que tu fais, au travers de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons répondre que oui, nous sommes tes disciples, nous t'aimons en premier, nous reconnaissons ton autorité en premier, Seigneur, et nous te demandons de faire ton œuvre en nous et au travers de nous. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.